Le travail des cinéastes fascine. Le réalisateur ou la réalisatrice, c'est un chef d'orchestre qui se retrouve à la tête d'un projet cinématographique.
Je sentais que l'équipe avait confiance en moi. Les gens comprennent ce que je veux, sont prêts à me suivre au bout de la nuit.
C'est celui ou celle qui doit transmettre ses directives pour concevoir une œuvre. Le célèbre réalisateur George Lucas a déjà dit que les cinéastes sont les conteurs d'aujourd'hui.
Mais je me suis positionnée en tant qu'actrice, tu sais, pour finalement devenir réelle, mais je me dis que peut-être parce que j'avais pas de modèle, tu sais, que je pouvais pas m'imaginer faire ça, tu sais.
Discussion avec deux réalisatrices de leur temps, Monia Chokri et Ariane Louis XVI. Monia Chokri, Ariane Louis XVI, bonjour.
Salut.
Bonjour.
On vous a réunis toutes les deux aujourd'hui parce qu'on avait envie de parler de votre métier de réalisatrice. Vous êtes démarquée cette année avec vos films Simple comme Sylvain dans le cas de Monia et Vampire humaniste cherche suicidaire consentant dans le cas d'Ariane. Vos films sont exceptionnels, je les ai vus les deux. Puis on avait envie de croiser le fer, en fait, de parler. Ariane, t'en es à ton premier film, Monia, ton troisième. Je suis curieuse de savoir au départ, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'embrasser la carrière de réalisatrice? Je commence avec Monia.
Ah, ben moi, c'est un petit peu ce long story short, là, mais j'ai commencé par être actrice, puis, mais j'avais toujours envie d'écrire, puis à un moment donné, à force d'écrire, ben je voulais pas forcément réaliser parce que je pensais pas que j'avais les capacités pour le faire. Mais j'ai commencé à écrire un long métrage en 2011-2012, puis plus je l'écrivais, plus je voyais les images, puis je me disais, ah, j'ai envie de le faire. Puis c'est aussi la rencontre avec Nancy Grant, ma productrice, qui elle m'a offert pour mes 30 ans un court-métrage « Toutes dépenses payées ». Parce que quand j'ai dit, ah, j'ai envie de réaliser, mais je ne sais pas trop si j'ai les reins assez solides, elle m'a dit, ben, commence par faire un court-métrage. Puis voilà, donc elle m'a offert ça pour mes 30 ans. Et donc,
c'est
j'ai
un beau
cadeau
quand même.
Ouais, ça a un peu changé le cours de ma vie et de ma carrière d'artiste. Ouais.
Quand tu fais ce court-métrage, est-ce que tu as tout de suite dit, OK, c'est bon, je suis à la bonne place, je suis sur mon X?
Ben, j'ai senti que j'étais à un endroit qui me rendait, qui m'épanouissait. Alors, je sais pas si j'étais au bon endroit ou si j'avais pas la confiance de me dire que j'étais super bonne pour le faire, mais par contre, je sentais que je me déployais. Que ça a changé beaucoup de choses dans ma psyché, dans mon rapport au monde. Puis je me suis dit, ben, c'est un endroit où je me sens bien, donc je vais poursuivre. Voir ce que je peux faire dans ce métier complexe.
Fait que le plus beau cadeau de ta vie, ça va avoir été quelqu'un d'extraordinaire.
Oui.
c'est incroyable. Ariane, dans ton cas?
Ben, moi aussi, c'est l'écriture qui m'a... Ben, j'ai toujours écrit, quand j'étais au primaire, j'écrivais des pièces de théâtre que je mettais en scène devant mon école. Puis quand j'étais arrivée au cégep, puis il n'y avait pas de formation en théâtre, donc puis il y avait la formation cinéma. Donc là, je me suis dit, ah, tu sais, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Donc, c'est ça, c'est un peu comme ça que le cinéma est arrivé dans ma vie. Mais après ça, j'ai essayé 1000 affaires, design de mode, travail social. Puis, au final, je sentais qu'il y avait cette envie-là de raconter des histoires qui étaient plus fortes que les autres choses que j'ai essayées, dans le fond. Puis, donc, je me suis inscrite à l'école en écriture. En sortant de l'école, moi, je suis en train de faire la long story de je pars de mon enfance. Là.
C'est correct.
C'est ça, en sortant de l'école, de l'INIS en écriture, j'ai participé à un concours qui s'appelle « Cours, écrire ton cours », puis j'ai gagné le concours, puis... un peu comme tu décris, j'avais des images, on dirait que je voyais ce film-là, donc je me suis dit... Ben, pourquoi pas essayer la réalisation avec un court-métrage, tu sais, si je le fais pas, puis si je vais pas au bout de ce que j'ai dans ma tête, puis pour moi, c'était de le réaliser, je saurais jamais. Puis à partir de ce moment-là, j'ai réalisé La peau sauvage, mon premier court-métrage, puis on dirait que j'ai jamais été capable de le dissocier ensuite. Pour moi, tu sais, raconter une histoire, on dirait que j'aurais de la difficulté à me voir juste écrire un scénario que je donne à quelqu'un d'autre parce que cet univers-là existe dans ma tête.
Est-ce que vous saviez, toutes les deux, quel genre de style vous vouliez donner à vos films? Qu'est-ce que vous aviez envie de communiquer quand on parle d'un style cinématographique?
Non, puis je sais même pas si je le sais aujourd'hui encore. C'est-à-dire que c'est pas à moi de définir mon style, plus c'est plutôt les autres qui m'en parlent. Je vois qu'il y a des choses qui reviennent dans les qualificatifs qu'on donne à mon travail, mais après, moi, j'aime avoir la liberté de me dire que je peux aller un peu n'importe où, ou que je peux explorer toute forme de langage cinématographique ou d'univers, tu sais, pour pas me contraindre. Mais je pense que dans mon ADN, il y a certains trucs qui reviennent, genre...
La comédie.
mais aussi un peu le travail pas passé, là, mais tu sais, qui est j'aime pas dire vintage, mais tu sais, je sens que c'est quelque chose qui revient, qui est très inconscient chez moi à chaque fois que je fais un film, et qui clairement est un truc qui est mis de l'avant dans
comme une facture un peu 60-70?
Oui, une facture un peu où je joue avec les codes d'un cinéma plus ancien, mais tu sais, je pourrais m'en détacher aussi, j'en sais rien. Je pense qu'il y a quelque chose, bien encore là, l'humour, tu sais, je me dis peut-être qu'un jour je vais avoir envie d'écrire quelque chose qui va être complètement dénué de toute forme de rigoladerie, mais je sais pas, tu sais.
Vampire humaniste, cherche suicidaire qu'on s'entend, t'es allé vraiment dans du cinéma de genre.
Ouais.
C'est des vampires, une famille de vampires, une jeune fille qui ne veut pas tuer pour boire du sang. Donc, elle s'abreuve avec des sacs de sang qui sont fournis par la famille. Puis, à un moment donné, les parents, la mère, est comme un peu, elle a une charge mentale trop grande. Puis, elle dit, là, il faut que tu fasses ta vie, là. Tu sais, je te mets dehors parce qu'il va falloir que tu aies chassé.
C'est pas vrai que je vais chasser pour tout le monde pendant 200 ans, là.
C'est pas vrai que c'est moi qui vais chasser pour tout le monde pendant 200 ans.
Pourquoi c'est moi qui est allé lundi?
Bravo.
C'est la compassion de votre fille qui est stimulée quand elle voit des gens mourir. Pas sa faim.
Les goûts, ça se développe. Tu vas finir par aimer ça.
J'ai pas besoin de tuer du monde pour savoir que j'aimerais pas ça.
T'es-tu peut-être pas, Sacha, mais t'es mange pareil.
C'est donner la permission de faire quelque chose qui avait plus ou moins été fait au Québec aussi. Je pense que c'est la proposition, c'est l'originalité de ta proposition qui s'est démarquée.
Oui, peut-être. Mais moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de jouer avec des codes de genre, mais je voulais vraiment que mes personnages soient quand même groundés dans un Québec un peu weird, un peu nostalgique, mais... Tu sais, qu'on puisse s'identifier à la famille de vampires. Fait que c'est pour ça que j'ai amené des histoires de charge mentale, puis un petit peu plus moderne au niveau des enjeux qu'ils vivent. Puis c'était ça qui m'amusait, là, de partir d'un film de vampires, mais de le traiter pas comme un film de vampires au final, comme si mon personnage principal, c'était une jeune adolescente normale, mais avec des problèmes légèrement différents.
Ce qui est cute, c'est que c'est ça, elle cherche des suicidaires parce que c'est moins pire de tuer quelqu'un qui veut s'enlever la vie. Donc,
C'est ça. Puis c'était l'idée aussi de faire ce personnage-là est une vampire. Donc, elle n'a pas le choix de tuer, mais en même temps, elle a beaucoup de compassion pour les gens. Puis c'est comme deux parts qui font partie d'elle, puis qu'elle essaie longtemps de rejeter son côté vampire, mais elle peut pas faire ça. Donc, c'était juste de voir comment, dans nos contradictions, puis dans nos peurs, on a toutes des peurs qui s'entrechoquent, puis qui vont pas en adéquation l'une avec l'autre. Donc, j'aimais ça. C'est ça, essayer de trouver le chemin pour qu'elle puisse accepter ou essayer d'accepter, ou un début d'acceptation de toutes ces parts.
L'idée, elle a germé comment, justement, de travailler cette idée-là, mais avec des vampires?
Moi, je pars souvent de musique. J'écoute de la musique, puis je marche. Puis, tu sais, moi, mon premier film de vampire, disons, qui m'a vraiment parti ma passion pour les vampires, c'est The Hunger de Tony Scott. Je sais pas si vous l'avez vu.
Non.
C'était avec David Bowie, Susan Sarandon, puis Catherine Deneuve. Fait que déjà, un méchant beau cast. Puis c'était la première fois que je voyais, tu sais, un film de vampires où les vampires, c'était pas juste des créatures assoiffées de sang. Puis ce qui m'intéresse surtout aussi, c'est tu sais, de faire quelque chose qui a pas nécessairement... d'aller dans les zones grises, là, qui a pas nécessairement le bien, le mal, les bons, les méchants. Puis ça, c'était la première fois que je voyais le vampire comme ayant des espèces de problèmes éthiques, puis... Il y avait quelque chose de super expérimental aussi dans ce film-là. Fait que ce film-là, ça a comme allumé ma passion.
Monia, dans ton cas, simple comme Sylvain, l'idée, elle a germé comment de parler de cette façon-là des relations amoureuses?
à raconter quelqu'un.
T'as presque rien dit à table, tu m'appelles plus, puis t'es de bonne humeur.
Salut, j'arrête pas de penser à toi.
Je pense que j'ai rencontré quelqu'un.
Tu penses que t'as rencontré quelqu'un?
Ben, après mon premier long-métrage, La femme de mon frère, j'avais vraiment envie de raconter. Je me souviens, le premier truc que je me suis dit ou que j'ai dit à Nancy, ma productrice, j'ai dit, j'ai envie de raconter une histoire d'amour. J'avais vraiment envie de faire un... Parce qu'il y en a pas au Québec, en fait. C'est hyper rare, les films vraiment romantiques, là, d'amour. Tu sais, dans les dernières années, il n'y en a pas eu tant que ça. Il y a peut-être Laurence Anyways... un peu Mathias et Maxime sur la bande, donc je nomme que les films de Xavier. Mais c'est vrai que c'est pas un genre qu'on explore beaucoup au Québec. On est très fort dans les histoires de famille, dans mm-hmm. les coming of age, par exemple. Mm-hmm. Ou, t'sais, mais c'est... Puis donc, mon impulsion, elle venait aussi de là, de raconter notre territoire par l'amour, par une vraie rencontre amoureuse. Puis après ça, j'ai commencé à réfléchir sur le rapport au territoire, à l'espace. J'avais envie de filmer la nature. J'avais, tu sais, j'ai comme... Il y a des choses... C'est comme un puzzle, hein? Puis, puis après ça, dans mon expérience personnelle, empirique, j'étais moi-même... Donc, j'avais 35, 36 ans quand j'ai commencé à l'écrire. Puis j'étais... prisonnière du couple, en fait. J'aimais pas le schéma du couple. J'aimais évidemment l'amour, j'aimais être amoureuse, mais il y avait quelque chose dans le couple qui m'inquiétait, qui m'angoissait, qui me fatiguait. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'aime pas ça? Puis pourquoi il y a quelque chose qui me dérange? Puis là, le couple, c'est parce que c'est un système, en fait. C'est un système politique, social, économique, mais qui a longtemps eu rien à voir avec l'amour. Donc... Et donc, l'amour est un nouveau paramètre dans cette structure-là. Puis l'amour, c'est un sentiment anarchiste qui côtoie une structure capitaliste dans notre cas, parce que c'est comme ça qu'on structure le couple ici. C'est une PME, un couple, tu sais, puis qui après ça devient une famille, qui est une autre forme de système qui alimente un système, tu sais. Puis, tu sais, on dit toujours, par exemple, le couple, c'est des... Tu sais, comment on dit? Le couple, c'est des projets, tu sais. Il faut que tu aies des projets.
Et des affinités.
Ouais, mais tu sais, des projets, là. Tu sais, il faut toujours... Puis là, attacher une maison. Puis là, tu sais... Fait que bref, c'est ça. Puis là, je me suis dit, OK, je vais déconstruire ce système-là, en fait, dans ma tête. Je vais commencer à... En fait, je l'ai fait pour me thérapiser moi-même sur la notion de couple.
Est-ce que ça t'a changé, en plus?
Ouais, oui, je pense que oui, vraiment. Bah, après ça, c'est l'expérience de vie aussi, puis c'est mais ouais, ça a changé. De toute façon, à chaque fois qu'on écrit, je pense que ça change, ça déplace des choses en nous. Tu sais, ça règle des névroses, puis ça en allume d'autres. Là, mm-hmm. C'est ce que je pense. Là. Mm-hmm. Je sais pas.
Le fait que toutes les deux, vous avez écrit vos histoires, est-ce que vous vous posez la question de savoir si vous serez capable de réaliser le scénario de quelqu'un d'autre? Parce que je pense que Babysitter, c'était une pièce de théâtre.
Oui, bien sûr. Après, c'est du cas par cas parce que c'est des rencontres humaines. Donc, mm-hmm. Ça dépend de chaque rencontre entre un scénariste et un réalisateur. Alors, j'ai trouvé ça hyper intéressant comme expérience. Après ça, je sens que je suis quand même un petit peu plus à l'aise quand je maîtrise ma matière. Pas parce que je méprise la matière de l'autre, mais parce que cette matière-là, on vit avec pendant des années. Puis donc, je me sens plus en confiance puis plus à même d'achever un projet que j'ai écrit moi-même, même si ça me demande énormément de travail. Peut-être 100 fois plus que si je laissais quelqu'un scénariser, parce que c'est, je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est la partie la plus quand même déroutante, épuisante, fatigante, anxiogène, effrayante, qui est le scénario, tu sais. C'est comme, c'est là où tu sujettes non seulement tes bases, mais ta fondation, puis tes fenêtres, puis tu sais, comme, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le scénario, puis moi, je crois pas du tout à on va arranger ça au tournage, là, tu sais. C'est comme, si c'est pas bon au scénario, ça sera pas bon au tournage.
C'est la base.
Un bon montage,
Il faut que la base soit bonne. Mm-hmm. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Ah oui, je suis d'accord. Moi, j'ai co-écrit mon film. On l'a vraiment écrit à quatre mains. On se partageait... c'était pendant la pandémie. On était sur Zoom du lundi au vendredi. On se partageait l'écran, puis on choisissait toutes ensemble, genre les virgules. Et c'était extrêmement épuisant comme processus, parce que tout ce que... Moi, j'ai l'habitude de juste jeter sur, tu sais, d'y aller là, instinctivement, d'écrire. Mais là, il faut que tu verbalises toutes les idées. Mais en même temps, j'ai trouvé que le processus était super riche parce qu'on était un public l'une pour l'autre déjà. Donc, Mais bref, c'est pas comme...
Il y avait un petit retour immédiat.
Exactement. Mais je me questionne un peu aussi... en fait, j'ai une ouverture à réaliser des choses que j'aurais pas écrites et pas le contraire, parce que comme tu dis, je trouve que l'écriture, c'est le... Je veux dire, après d'être passé par ce processus-là, quelque chose qui vient de toi, que t'as mis de toi dedans, je veux dire, il faut aller au bout, puis c'est la réalisation.
La partie préférée de votre métier de réalisatrice, je mets une barre oblique scénariste, là, mais dans votre travail, elle est où? C'est où votre plus gros fun?
Ben moi, je pense que c'est de... Quand je sens que le scénario est prêt, puis que là, je commence à bâtir l'équipe créative autour, puis que là, il y a d'autres cerveaux, d'autres artistes qui s'ajoutent, qui comprennent ou qui posent des questions, puis qui amènent plus loin ta vision, tu sais, ce moment-là où tu as une idée précise, j'aime ça me laisser la liberté quand même de, même si je sais où je veux aller, de laisser les imaginaires des autres, tu sais, bonifier le mien. Puis je pense que c'est mon moment préféré, la préparation, puis là où on rêve, puis on se fait des plans, puis on des gens qui amènent des idées, puis tu fais, oh mon Dieu, c'est du génie, ben oui, puis que, tu sais, tout ça, c'est mon moment préféré. Puis la musique aussi.
Monia, ton côté?
Bien, moi, j'aime toutes les étapes de ce métier-là, même s'il y en a que je trouve plus difficile, genre le scénario, mais je pense que c'est aussi agréable pour ma personnalité. Je suis à la fois très solitaire et très sociable, donc mon métier de scénariste me permet cette bulle-là où, par exemple, la période du montage, où on se retrouve, moi avec ma monteuse, ou en tout cas dans une bulle pendant... quelques semaines, quelques mois, puis en même temps, j'adore cette effervescence puis cette phase maniaque qui est le tournage, tu sais, où t'es justement, t'as une question aux 3 secondes, puis t'es comme complètement... t'es dans un... t'es en ébullition, ta sérotonine est vraiment genre dans le tapis, là,
tu sais. Et votre capacité à vous faire comprendre aussi, parce que vous avez quelque chose très important, en tête. Ça arrive des fois que peut-être on a quelque chose en tête, puis...
Personne
peut l'attraper?
Oui, c'est l'avantage. Moi, je te dirais que maintenant, avec l'équipe que j'ai bâtie, tu sais, c'est l'avantage, c'est que j'ai plus besoin de... Il y a certaines choses que j'ai plus besoin de communiquer parce qu'ils me connaissent déjà. Donc, puis moi aussi, je fais confiance à cette équipe créative-là. Donc, ça t'enlève un poids, en fait, de contrôle, entre guillemets. Là. Tu sais, je sentais que dans mes premiers films, j'étais vraiment plus dans un souci de contrôle, de tout checker 3 fois, puis là, j'ai laissé un peu du lousse dans Sam comme Sylvain. Là, je sens que, tu sais, j'ai une équipe auquel je peux faire vraiment confiance, puis à laquelle je fais confiance, puis ça fait du bien aussi. Mais s'il y a un moment préféré que j'ai de tout, je dirais que c'est peut-être quand je suis comme à mi-parcours du tournage, dans la moitié du tournage, puis que là, je vois mon film commencer à se dessiner. Je commence à comprendre, je commence à maîtriser le vocabulaire de mon film. Parce qu'un film a un vocabulaire, puis ça se développe à force de tourner, le film. Tu peux pas l'inventer avant de commencer ton tournage, parce que tu l'as dans la tête, tu as tes idées, tu as mis en place des certaines bases de... Tu sais, ça va être ça, le code couleur, ça va être comme si mes mouvements de caméra vont ressembler à ça, parce que j'ai un plan, tu sais, j'ai fait mon découpage, mais au fond, tu sais, premier jour de tournage, t'expérimentes, tu sais, puis tranquillement, ton vocabulaire, il se développe.
Votre casting, parce que je sais que Monia, t'as déjà écrit pour des amis, t'as eu des muses amies.
Ouais.
Puis je suis curieuse de t'entendre aussi, Ariane, sur comment, justement, vous mettez vivant ces personnages-là que vous avez écrits, de les avoir en tête en écrivant, de les choisir par la suite, de faire concorder peut-être un visage auquel on n'avait pas pensé au moment de l'écriture. Parlez-moi un peu de comment vous fonctionnez.
Moi, j'écris pas vraiment avec des visages en tête. Je sais pas, peut-être qu'un jour je vais écrire avec quelqu'un en tête, mais à date, on dirait que d'avoir aucune idée, ça me permet de mieux connaître mon personnage. Puis après, c'est vraiment en audition, c'est des rencontres. Puis quand tu le trouves, on dirait que tu le sais. Puis ça a été ça pour Vampire. Il y a quand même beaucoup de personnages dans le film. Puis toutes les auditions que j'ai passées, on dirait que quand je rencontrais la bonne personne, ça pouvait pas être autre chose. Puis là, j'appelais les producteurs, puis ils ont-tu répondu? Là, j'avais peur que la personne puisse plus ou parce que c'est plus possible. De
vous vous êtes partagé un Steve Laplante, entre
autres. Oui. Ben, je pense qu'on n'est pas les seuls à se le partager.
Qui a remporté un prix au dernier Gala Québec Cinéma, mais vous avez eu le même croche pour le même acteur.
Oui. Ben, moi, je l'ai rencontré sur Baby Star parce qu'il jouait dans la pièce originellement, puis... ça a été une grande rencontre. Je l'admire beaucoup, Steve Laplante. Mm-hmm. Je le trouve extrêmement charismatique. Pince sans rire, fascinant à filmer.
Mm-hmm.
Puis c'est un scénariste aussi. Mm-hmm. C'est intéressant de parce qu'il y a une intelligence de la langue. Ouais, je l'adore. Mm-hmm.
Je suis fascinée par lui. Moi, je suis le premier que j'ai
casté. Ah ben... Ça m'étonne pas. Non, mais je veux dire, je pense qu'on est tous fascinés par lui, là, que ce soit de Stéphane Lafleur à Annie Saint-Pierre, tous les gens avec qui il travaille. Je pense qu'il... Puis en plus, on dirait qu'il pingue son mojo, là, tu sais, de... Tu sais, il a toujours travaillé, Steve, mais là, on dirait que c'est comme l'explosion de Steve Laplante. Puis je trouve ça formidable parce qu'il mérite tout ça, tu sais.
Mm-hmm.
Est-ce que c'était le cas de Pierre-Yves Cardinal? Est-ce que... Comment...
Il mérite pas ce temps. Il mérite pas cette attention.
Non! C'est quand même ton Sylvain.
Non, je rigole. Ben moi, j'écris. En fait, j'écris pas non plus pour des acteurs, hormis quelqu'un d'extraordinaire qui était effectivement destiné à toutes ces actrices-là, mais où je voulais toutes les mettre dans une espèce d'anti-casting. En général, j'écris pas. En fait, pas en général, j'écris pas pour des acteurs parce que le processus d'écriture, c'est trop long. Ton envie peut changer, ton personnage, il bouge. Mm-hmm. Puis d'avoir le sentiment d'avoir tout de suite une musique dans la tête avec quelqu'un, avec un corps, je trouve que ça contraint beaucoup le récit, puis comment peut se déployer le personnage dans ton exploration de celui-ci dans l'écriture.
Et comment il s'impose quand tu arrives au moment du casting?
Ça dépend à chaque fois. Là, dans le cas de Sam comme Sylvain, ça a été un petit peu long. Ça a pris comme une année vraiment après avoir fini d'écrire pour vraiment me questionner à qui j'allais l'offrir. J'aime pas trop sur les rôles principaux faire des castings, là. C'est rare que je fais des auditions vraiment, là. Puis, fait que j'ai réfléchi longtemps. Mon audition est dans ma tête en secret. Puis je vois la personne comme là, ça tombait bien. C'était ma meilleure amie. Fait que je pouvais l'avoir.
Mais tu connaissais aussi Pierre-Yves Cardinal. En fait, tu voyais déjà que la chimie était palpable parce qu'on s'entend avec ton film. Moi, j'ai eu des sueurs. Il y a quelque chose d'hyper torride, pour pas dire cochon.
Ouais, après, ben, tu sais, Magali s'est imposée en premier parce que c'était le rôle principal, puis c'était le rôle féminin, puis je voulais quelqu'un à côté d'elle ou en tout cas qui l'accompagne là-dedans avec une certaine douceur, respect. Puis de l'intime, puis Pierre-Yves, j'avais travaillé avec lui aussi comme actrice sur Nouvelle Adresse, on jouait un couple, puis je connaissais son respect puis sa bonne camaraderie, puis je trouvais que c'était... Puis ce qui était très intéressant d'ailleurs sur le plateau, parce qu'il n'y avait aucune tension entre eux, tu sais, il n'y avait rien de... Parfois, ça peut glisser avec des acteurs, mais surtout dans des rôles comme ça où ils font appel eux-mêmes à leurs sentiments, à leurs sensations, mais... Ce qui était intéressant, c'est qu'ils étaient vraiment deux bons vieux chums, tu sais. Puis après ça, quand on disait action, ben là, toute la chimie du romantisme pouvait s'opérer. Puis je pense que c'était aussi dû au fait qu'ils étaient bons camarades, tu sais.
Mm-hmm. C'est fascinant quand même de voir qu'il y a autant de chimie à l'écran puis de voir que quand la caméra s'éteint, ça redevient deux amis.
Mais parce que la chimie, elle est créée à travers leurs personnages et non pas à travers ce qu'ils sont eux dans la vie. Donc, ils font opérer la chimie par la force de leur personnage, tu sais.
Quand on se dit se faire comprendre, il y a une capacité aussi à donner des directives sur un plateau pour avoir l'émotion qu'on veut. Faut comprendre nous-mêmes où est-ce qu'on s'en va.
Clairement.
Oui. Mais je pense qu'il y a beaucoup du travail. Le gros du travail, c'est en amont que ça se fait, tu sais. Puis rendu sur le plateau, ben oui, il y a plein de choses qui se passent encore, mais tu sais, quand ce travail-là se fait bien en amont et avec les acteurs. Et, tu sais, moi, j'aime ça quand même quand j'ai l'occasion de prendre du temps pour soit répéter ou, tu sais, passer à travers les scènes, beaucoup discuter du personnage, remettre peut-être des choses en question avec eux, leur sensibilité ou des idées qu'ils auraient ou comment qu'ils voient la scène. Tu sais, il y a encore cette permission-là, je trouve, en amont.
Mais c'est quand même, c'est ton premier long.
Oui.
Tu avais cette confiance-là en arrivant sur le plateau. Oui, ta première journée de tournage, quand ça arrive sur le plateau.
Ah non, mais la première journée de tournage, j'étais pas bien, là. J'étais vraiment pas bien. Faut dire que moi, j'avais 47 lieux dans mon film et il y en avait à peu près 8 de confirmés quand on a commencé à tourner. Puis moi, j'ai un... Je voulais vraiment une esthétique... quelque chose de graphique. Je voulais jouer avec la nostalgie dans des lieux qui sont un peu désuets. Puis, donc, les lieux, ben, tu sais comment c'est important.
C'est primordial.
C'est primordial. Puis là, je le savais que ce qui m'attendait, c'était un tournage de nuit. Premièrement, moi, je suis vraiment matinale, mais là, je ne suis plus pantoute. Le tournage m'a brisée.
parce que les vampires, ben, oui, la nuit.
Oui, c'est ça. Fait que, tu commences à 6 heures le soir, tu finis à 6 heures le matin. Puis là, le matin, on me disait, OK, mais ben là, ce lieu-là, il ne marche plus. Il faudrait aller faire une visite de loc avant ta journée d'après. C'était ça constamment. Donc, c'était...
Ah, mon Dieu! Pis, le cauchemar!
C'était le cauchemar. Puis, j'étais en burn-out avant de commencer le film. J'étais en burn-out en avril. Puis, j'avais comme oublié parce que j'étais excitée d'avoir le financement. Puis là, avant le film, j'ai comme fait... Hey, non, mais c'est vrai, je me rappelle, j'étais en burn-out, fait que j'étais vraiment pas en forme. Mais après 3 nuits de tournage, j'ai comme pogné le beat, puis c'est revenu. Puis j'ai pris un peu de confiance en moi. Puis ce qui me donnait une grande confiance, c'est que je sentais que l'équipe avait confiance en moi. T'sais. Donc ça, de sentir que les gens comprennent ce que je veux, puis sont prêts à me suivre au bout de la nuit... Ça m'a comme donné l'énergie.
Monia, tu as ton premier film après ton court-métrage quand tu es rentrée sur le plateau du long. Est-ce que tu avais une belle confiance ou tu étais remplie de doutes?
Je me souviens pas vraiment. Ouais, je me souviens approximativement de la première journée, mais j'essaie d'y aller quand même au jour le jour aussi quand je tourne, de ne pas voir ça comme une espèce d'amas d'une montagne infranchissable. Je pense que c'est ça qui est effrayant. Puis quand tu fais un long-métrage, quand tu réalises ton premier long-métrage, il faut que tu apprennes à diffuser ton énergie sur plusieurs jours.
C'est comme un marathon.
Oui, c'est ça. Quand tu fais des cours, tu sais, t'es comme sur 4-5 jours. Ça dépend là, si t'es vraiment... si t'as beaucoup de moyens, tu vas jusqu'à 7-8-9-10 jours. Mais en général, c'est plutôt entre 2 et 5 jours, mettons. Puis souvent, ton énergie est plus concentrée, puis plus intense, puis t'es plus jeune. Puis à un moment donné, c'est vraiment ça le défi du long métrage, c'est d'arriver à avoir une énergie que tu peux vraiment diffuser, c'est ça, pendant 35 jours, 30 jours, tout ça, tu sais, parce que sinon, tu peux te brûler vite.
Toi, Ariane, t'as dû apprendre de cette expérience-là?
Oui.
J'imagine que ton prochain tournage va mieux se dérouler.
C'est intérieur jour.
Mais tu sais, je le savais, j'étais là, je sais que j'ai beaucoup de lieux, je sais que ça va être un défi, mais je me suis sentie comme on commence le tournage, puis il y a tellement d'inconnus, puis moi, dans ma tête de fille qui aime ça, être prête, je m'étais préparée, mais c'est difficile de faire du découpage quand tu sais pas où tu
mais
vas
non,
tourner.
Mais non, c'est ça, en plus, ton découpage n'était pas terminé parce que tu n'avais pas tes lieux, puis
c'est ça, puis j'avais quand même fait un
cauchemar.
Mais...
Ça m'angoisse tellement. Là.
Pour les gens qui nous écoutent, du découpage, c'est quand on fait des... En fait, on fait comme un peu les images scène par scène, c'est ça?
Ben, c'est qu'en fait, tu prends une scène... Mettons, ça se passe dans un salon, c'est un dialogue. Je vais prendre quelque chose de très, très de base, là. Un dialogue entre deux personnages qui boivent le thé. Puis là, ben, en fait, ton découpage, tu dois te dire qu'est-ce que je veux comme plan. C'est-à-dire, OK, je vais faire un plan, un gros plan du personnage A, un gros plan du personnage B. Là, ça me fait deux plans. Là, ensuite, je vais faire un large pour avoir les deux dans le même plan. Fait que je vais faire un troisième plan, etc. Je vais faire un insert d'une tasse à café, ce quatrième plan. Donc, c'est ça, en fait, c'est une écriture...
En image.
C'est vraiment ça.
Puis ça, tu peux le faire comme tu viens de le décrire, tu le sais un peu comment tu veux découper ta scène, sauf que les lieux, quand t'as un plan sans avoir de lieu, des fois, ça fonctionne pas vraiment ce que t'avais en tête. Puis le lieu t'inspire aussi chose. Donc, c'est comme un
peu... Moi, je suis pas capable de découper sans lieu de tournage. Comme, c'est impossible. Mais... C'est comme dessiner dans le vide. Là.
Le fait de tourner dans tes films, parce que t'as joué dans deux de tes films, est-ce que pour toi, c'est une contrainte? Ou ça dérange pas du tout?
Ah, c'est pas quelque chose que je trouve plaisant. Puis je l'ai fait sur Babysitter. Je pensais pas le faire. J'avais le scénario dans les mains. Puis un an plus tard, c'est Catherine Léger et le producteur qui m'ont contacté en disant « Ah, on pense que ce serait le fun que tu joues Nadine. » Puis j'étais comme « Ah, OK. » Fait que là, je me suis mise à relire le scénario dans cette perspective-là parce que je l'avais pas du tout imaginé... Puis là, je me suis dit... En fait, j'avais le goût d'essayer de savoir ce que c'était, parce que comme je regardais les réalisateurs, acteurs le faire, puis je me disais, ah, c'est quoi de jouer puis de diriger en même temps? Qu'est-ce que ça demande comme énergie? Puis je pense que j'ai accepté, entre guillemets, auprès de Catherine et du producteur, parce que c'était pas mon scénario. Fait que quand j'écris, j'ai l'impression que je suis au degré zéro... du personnage, si je le joue. Puis je trouve ça intéressant de le passer notamment sur les personnages principaux à des actrices qui, je trouve, meilleures que moi, plus intéressantes, puis qui, moi, je vais trouver plus intéressantes aussi à monter pendant 4 mois, tu sais, pas voir ma gueule.
Mais tu l'avais vu beaucoup avec Xavier Dolan, parce que tu as tourné dans ses films, évidemment, tu l'avais vu et joué et réalisé.
Ouais. Mais Xavier a un cerveau qui est hors du commun. Là. C'est-à-dire que Xavier, il fait de la surcarburation mentale. Tu sais, c'est quelqu'un qui est vraiment qui est capable d'être sur beaucoup de départements en même temps. Puis il faisait beaucoup quand il était plus jeune, tu sais, à faire les costumes de ses films, à jouer dedans, à réaliser, à faire le montage, à, tu sais, à écrire. Tu sais, il couvre... Alors ça, c'est sa manière de... Moi, j'ai pas du tout cette énergie-là. Là.
Mais comment ça marche, disons? Est-ce que tu vas voir au moniteur les playbacks après chaque take?
Pas après chaque take. Des fois, j'en fais comme plusieurs d'affilée. Mm. Puis là, je vais aller voir. Ça dépend.
Puis là, après, tu réajustes, tu rediriges un peu.
Ouais. Puis souvent, j'ai une stand-in aussi. J'ai quelqu'un qui est comme une remplaçante, en fait, qui vient pour la mise en scène, pour le moment de la répétition, par exemple. Si j'ai d'autres acteurs ou d'autres, tu sais, puis pour travailler la lumière, on va mettre quelqu'un en place. Puis comme ça, le chef opérateur, le DOP, peut ajuster son éclairage pendant que je peux faire autre chose. D'abord, regarder de l'autre côté avec lui, par exemple. Ou de...
Et après ça, tu vas remplacer ta remplaçante sur le plateau.
Je vais remplacer ma remplaçante,
ouais. C'est super drôle. Mm. Le fait aussi que tu joues, que tu as gardé quand même ton travail de comédienne, d'actrice, jouer pour les autres, est-ce que tu observes ce que le réalisateur fait? Est-ce que c'est un défaut professionnel?
Oui, puis non, je trouve surtout que c'est des vacances, là, quand je vais tourner pour les autres, là, comme je l'ai fait pour Charlotte Lebon, par exemple, dans Falcon Lake, où là, je suis comme, bouf, j'ai pas de responsabilité, fait que je bois des cafés, je jase avec le monde, puis non, je laisse... à partir du moment où je décide d'aller dans l'univers de quelqu'un, je suis pas là dans le coin de la pièce en disant, je l'aurais pas fait comme ça, moi. Je suis comme... je respecte le travail, puis ce qui est beau dans notre métier, c'est ma chance comme réalisatrice, c'est que je suis pas allée à l'école, j'ai pas fait d'école de cinéma, mais j'ai fait beaucoup de plateaux de tournage, donc j'ai pu observer, ce qui est rare. Les réalisateurs, ils vont seulement sur leur plateau, à moins qu'ils fassent d'autres métiers connexes, mais en général, ils ne connaissent que leur méthode. Puis moi, j'ai eu la chance d'en expérimenter beaucoup, tu sais, plusieurs méthodes, puis c'est comme ça que j'ai fait un peu mon école de
metteur en scène. T'apprends les autres comme ça sur un plateau de tournage, oui?
Ben oui, bien sûr.
Avec Robin Aubert,
avec Robin, c'était très intéressant, sa manière de diriger, par exemple, avec je sais pas, c'est juste intéressant d'aller dans les univers des autres, puis de voir qu'en fait, il y a pas une méthode pour réaliser, tu sais. C'est un métier de création, fait que c'est comme ta méthode, tu l'inventes, ta méthode d'écriture, tu l'inventes, tu sais.
Monia, je me pose une question, je me demande, est-ce que ça t'intéresse de travailler aux États-Unis?
Les États-Unis, je c'est un peu ambigu par rapport aux États-Unis parce que c'est une industrie hein, là-bas. C'est-à-dire qu'ils vivent vraiment de leur... On sent que c'est une business. Ça change un peu leur manière, leur approche, notamment celle de... si tu vas travailler avec des studios et ou même des producteurs, tu n'as pas forcément le final cut, comme on dit, ou le fin mot du montage ou de ton film, tu sais. Donc, c'est parce que ce sont des investisseurs privés aussi. Donc, c'est quand même délicat, tu sais. Puis, j'ai pas de rêve américain, tu sais. Faudrait que j'aie un sacré bon projet puis que je me dise... Puis, je suis pas encore une réalisatrice qui se fait offrir justement les meilleurs scénarios des plus grands scénaristes américains. Là, je reçois un peu d'une affaire qui s'est passée sur beaucoup de bureaux. Là, fait que,
Un bon gros Marvel.
Non, ça, c'est vraiment. Moi, ça, je considère, mettons ce que fait Denis Villeneuve ou Chloé Zhao, pour moi, c'est un autre métier.
Ariane, tu as gagné un prix de réalisation à la Mostra de Venise dans la section Venise Days. Qu'est-ce que ça a changé pour toi?
Venise, puis de gagner ce prix-là, ça a vraiment créé beaucoup d'attention. Puis j'allais à Toronto tout de suite après, au TIFF, puis là, j'étais bourrée de meetings avec des Américains, des producteurs américains.
Call it the general meeting. Si je peux me permettre, c'est des producteurs, souvent c'est des producteurs, là, ou ça peut être des agents, des scénaristes, ça dépend où tu en es dans ton métier, mais où en fait ils veulent juste te rencontrer. Tu sais, mettons, ils ont aimé ton film, puis ils veulent juste voir. Ils veulent tâter le terrain. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment? Si tu t'intéresses à. Mais tu sais, c'est comme des speed dating, là.
Ouais.
Puis c'est par Zoom, puis t'en fais, là.
Mais après.
C'est toujours la même chose. Ils sont comme great, it was so nice to meet you. Let's keep in touch. It was so great. Thank you, Monia. Puis t'es comme thank you.
Mais après, moi, je trouve ça quand même intéressant de. Mais là, c'est trop, puis là, je vois bien que si je le sais d'avance qu'il n'y a pas de fit, c'est juste beaucoup d'énergie.
Oui, c'est ça.
Mais je viens de signer aussi avec des agents américains qui m'envoient plein de scénarios. Je lis d'habitude, je sais pas.
Peut-être là, pour
une dizaine de pages, puis tu le sais tout de suite.
Ah oui, tout de suite.
Puis des fois, je me rends au bout juste... Ben, pas au bout, mais tu sais, je vais plus loin pour parce que je trouve la lecture est intéressante, mais je me vois pas réaliser ce film-là, donc je dis non à tout, finalement. Ouais. Mais cette expérience-là m'a comme amenée à... Moi, ça me tentait pas d'aller dans un meeting puis juste de parler de comme... Ils te lancent des compliments, puis merci. Puis, tu sais, je voulais avoir quelque chose de concret, que je me suis mise à pitcher un film. Finalement, j'ai repris ce pitch-là à chaque personne que je rencontrais. Puis le film, c'est comme construit de pitch en pitch. Puis à la fin, je suis comme allée à une semaine à LA, puis j'avais, je sais pas, là, mettons 25 meetings. Puis à la fin, je me disais, hey, je pense que je l'aime vraiment, le film que je me suis mise à pitcher. Puis il s'est comme construit, puis il a pris sens. Fait que je pense que je vais l'essayer, moi, la game américaine avec avec ce film-là. On verra.
Et je veux revenir sur l'année 2023 qu'on vient de vivre en cinéma. Il y a une tendance qui s'impose, celle où est-ce qu'il y a davantage de femmes à la réalisation. Je pense que vous allez être des bons modèles, d'ailleurs, pour une génération montante. La voyez-vous, la parité qui s'impose dans le milieu cinématographique?
Oui, par la force des choses. Puis c'est beau parce que la parité, c'est un petit peu a été, comment dire, c'est mis en place par un système qui a été dénoncé par certaines personnes, qui était celle, en fait, de quand un producteur déposait plus de 2 scénarios, il fallait qu'il y en ait un qui soit écrit par une femme. Donc, il y a eu beaucoup de frustration, mais ça ne veut pas dire qu'on était financé. Puis, il y a eu beaucoup de mélange de là-dedans, dans la tête des gens, de oui, mais là, c'est dire qu'une fille va être financée. C'est pas ça, tu sais. Puis, à talent égal, ça voulait juste dire qu'on avait enfin la chance d'être lu, puis d'être... donc, c'est intéressant parce que là, on voit les fruits de ça. Une imposition sur un système il faut que la roue tourne carré pour qu'à un moment donné, elle commence à prendre le pli de la route puis qu'elle devienne ronde, tu sais. Mm. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'aujourd'hui, elle roule de manière lisse et ronde, cette roue-là de la parité. Puis c'est assez beau de voir toutes ces femmes-là se déployer dans ce métier-là. Mm.
Je trouve ça beau, magnifique et incroyable de voir que cette année, on célèbre le cinéma et qu'il n'y a plus cette question-là qui revient sans cesse à « c'est comment être une femme quand on réalise?
» Ça revient quand même tout le temps.
Ça revient tout le temps? Bien, moi, je trouve qu'on s'en va vers quelque chose où ça va devenir normal.
Je pense que le jour où on va arrêter de nous poser en entrevue cette question-là de par rapport au fait que tu sois une femme, de toujours ne pas positionner notre genre dans notre métier, c'est épuisant parce que nous, on veut être pris pour... simplement pour des artistes sans genre, là, tu sais.
Parce que vous êtes le genre de l'artiste.
Oui, ouais, mais c'est surtout que les hommes ne se font pas poser ce... Alors, qu'en tant qu'homme, de réaliser ça, de... En fait, je veux juste pas qu'on me dise en tant que femme, je m'en fous. Comme on peut me parler de mon film, de ce que je raconte, je veux juste plus qu'on me demande si comme femme, ça change quelque chose ou que... Parce que ça, c'est juste que les hommes ne se font pas poser cette question.
Non, exactement. Mais moi, je pense que ça a ouvert les valves pour que les femmes se donnent le droit d'occuper ces places-là dans le monde du cinéma.
Bien, c'est sûr
ça a donné une conscience sociale.
Là. En tout cas, ce qui est bien, c'est que plus il va y avoir des modèles, plus il va y avoir des jeunes femmes qui vont se dire que... Ça, c'est tellement beau quand je reçois des messages, je ne sais pas si tu en reçois, mais quand je reçois des messages de jeunes filles qui sont en école de cinéma ou qui me disent « ça me donne, c'est si j'ai envie de réaliser » ou tout ça, je me dis que, ben moi, quand j'étais plus jeune, je n'en avais pas de modèle. C'est ce que j'ai dit dernièrement en entrevue. J'ai dit peut-être que je suis passée par le jeu dans ma vie, comme je suis passée par j'étais fascinée par le cinéma, moi, vraiment, depuis toute jeune. C'était vraiment le médium qui m'intéressait. Mais je me suis positionnée en tant qu'actrice, tu sais, pour finalement devenir réelle. Mais je me dis que peut-être parce que j'avais pas de modèle, tu sais, que je pouvais pas m'imaginer faire ça, tu sais.
Je reçois aussi ce type de message-là, puis on dirait que j'avais pas réalisé que je pouvais être un modèle. Et puis ça m'a vraiment fait quelque chose, là, de voir que... OK, tu sais, ça a cette portée-là aussi, puis ça donne envie à d'autres femmes d'être réalisatrices, puis que c'est possible. Tu sais, des fois, avoir un poste de boss ou de chef d'orchestre, dans les écoles de cinéma, longtemps, je pense qu'on a comme enseigné comment il faut... imposer, ça, avoir l'air de toujours savoir ce qu'on veut, puis pour moi, ce serait me faire violence d'être obligée d'être cette personne-là. Puis c'est comme essayer de prendre des caractéristiques, disons, d'homme ou de quelqu'un qui a du pouvoir. Mais moi, je trouve ça le fun de voir, puis je trouve ça beau que, tu sais, toi, c'est pas comme ça que tu fonctionnes, moi non plus. Puis
Jane Campion non plus.
Ben non, c'est ça.
Je pense à elle parce qu'il y a un très, très beau documentaire qui a été fait sur elle. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est vraiment bouleversant de l'entendre raconter son parcours d'artiste de l'école à aujourd'hui, puis comment justement elle s'est faufilée dans un métier où elle avait pas la personnalité qu'on souhaitait.
Ouais. Puis elle a essayé plein de choses aussi dans d'autres postes. Puis je pense que ce que j'ai vu une classe de maître avec elle. Puis
quand elle est venue à Montréal.
Oui, c'est ça. Puis elle était pas certaine si elle voulait être réalisatrice. Puis ça participait ça, le fait d'être réalisateur. C'est comme on a une image de ça. Puis essayer de répliquer ça, mais je sais pas, c'est loin, en tout cas, c'est loin de moi.
Mais en tout cas, moi, je vous le confirme, vous êtes deux beaux modèles et vos films ont été hyper intéressants à regarder. Simple comme Sylvain de Monia Chokri, Vampire humaniste, Cherche suicidaire consentant, d'Ariane Louis XVI. Merci à vous deux.
Merci.
Merci d'avoir été avec nous. Pour réécouter les épisodes, allez sur Spotify, Google Podcast, Apple Music et sur les plateformes de Cogeco. Sortez le Popcorn est une production de Push Up Media, à la réalisation Fred Perron, au mix sonore
Olivier Couture, à la recherche et à la production de contenu, Stéphanie Gagnon, à la coordination, Béatrice Langlois-Bété, au design graphique, Simon Lagneau, à la vidéographie, Studio Campus, aux communications numériques et promotion, Sandrine Couture. C'était votre animatrice, Catherine Beauchamp, qui vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Sortez le Popcorn.